pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi.
Allons au ciné. Ma du quartier, ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie.
Youpi, youpi.
C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si triste. Oh oh oh, si triste. Oh oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé. Parbleu, elle a passé du temps près de sa mère, malade après la limonade, comme vous savez. C'est samedi, elle est rentrée, l'humeur maussade, puis lasse de donner ses soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Mais le seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi,
moi j'en ai marre. Je vais à la foire, puisque ma mère est toujours alitée. Pourquoi pas en profiter?
Youpi, youpi,
la voilà donc sur un cochon qui tourne en rond. Quelle joie de vivre, ha ha ha, lénivre. Il y a Albert qui est derrière, qui la serre, et elle le laisse faire, ouais. Cette semaine, y a pas eu de paye, sa mère est morte, depuis mardi qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albert a franchi la porte, pour la remonter et pour lui présenter ses voeux. À son usine, on a mis une intérimaire, pour lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière, quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie.
Youpi, youpi.
À 16h16, y'a un express pour Saint-Tropez. Faut qu'on se presse, j'ai du pèse, j'dis ça pour te mettre à l'aise.
Youpi, youpi.
Les voilà donc partis tous deux pour d'autres cieux. Ah, quelle fille maman. Ah, quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan, flan.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est la rentrée en ce mois de septembre et moi je vous retrouve avec un grand plaisir pour cette nouvelle rentrée avec mes chers auteurs. J'espère vous retrouver d'ailleurs en très bonne forme pour les lectures des auteurs que je vous propose au fil des mois. Aujourd'hui, nous allons retrouver une auteure pleine d'humour, de franchise, de véracité humoristique, tout en rondeur, tout en douceur, très sympathique, toulousaine passionnée d'écriture, peut-être de peinture, parce que c'est une idée qui m'est venue en lisant ce livre. Je vous présente pour la deuxième fois Claudine Canda. Bonjour.
Bonjour Gisèle, et merci d'avoir parlé de moi avec tant de chaleur.
C'est ce qui ressort de vos écrits, et c'est ce que je ressens chaque fois que je vous lis. Passionnée de peinture ou pas?
La peinture, oui, me passionne parce que j'ai grandi dans la peinture. Mon père était peintre-sculpteur.
Et nous en parlerons plus tard, que j'ai vu un de vos beaux tableaux, en tout cas de votre papa. Nous venons d'entendre une musique très sympathique, ancienne, pour commencer cet entretien. Qu'est-ce qui a guidé votre choix ?
Le choix, alors, Bobby Lapointe, j'ai fantaisie, parce que c'est l'humour. C'est l'humour, c'est le jeu avec les mots, et ça met de bonne humeur. Mmh. Et c'était mon projet en écrivant aussi ce recueil de nouvelles.
C'est un recueil que vous nous présentez très, très agréable à lire. On peut le prendre, le laisser, le reprendre, prendre la fin, le début. C'est parfait comme livre. Claudine, vous nous aviez présenté il y a quelques mois Diabolopacte, livre très rigolo, si je peux dire, très humoristique et alors très hilar, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un nouveau livre dont nous allons parler. Qu'est-ce qui vous guide dans l'écriture de vos livres ?
Pour ce recueil de nouvelles, je vais vous expliquer la genèse de ce recueil. Quand on commence à écrire, enfin moi c'est mon cas, oui. Je ne me suis pas attaquée au genre romanesque. Le roman me paraissait monumental. J'ai commencé à écrire très jeune, dans l'enfance et l'adolescence, de la poésie et des nouvelles, des histoires courtes. J'ai écrit une série de nouvelles absurdes et de sketchs pour la scène que je n'ai jamais publiés. Et ensuite, mais à l'an 2000, je me suis attaquée au genre romanesque avec une saga de science-fiction, Poussière de sable, et Diabolopacte, qui a été mon premier roman publié. Et bien sûr, bon, la publication, la parution de ces livres, ça n'a pas été coton. J'ai pris une rafale de lettres de refus. Et pendant ce temps, j'ai eu l'idée de me présenter à des concours de nouvelles pour me faire connaître. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces nouvelles. Aucune n'a été primée, mais entre-temps, Diabolopacte a été publié et ma saga de science-fiction aussi a fini par l'être.
Oui, et Diabolopacte d'ailleurs avait eu des prix.
Ah oui, elle a été primée à sa sortie en 2009. Oui. Ensuite, mon éditeur a fait faillite. Bon, ça a été diabolique. C'est un roman sur l'édition.
Oui, mais
donc,
vous aussi, vous voilà. Écrivez Diabolopacte.
Oui. Et ensuite, ce roman a été réédité par les éditions d'Avalon. Et en même temps, ce recueil de nouvelles est paru la même année, en 2023. Oui. Et Diabolopacte a été primé, a eu le premier prix du roman de l'Académie des livres de Toulouse en décembre 2023.
Oui. Vous écrivez très simplement. Je trouve que c'est des lectures que l'on peut donner à tout le monde parce que c'est écrit presque comme vous, comme on parlerait, c'est ça ?
Oui, ce que je recherche, c'est la fluidité, c'est à toucher le lecteur. Bon, et c'est un peu la façon dont je parle.
Oui.
Alors, avec plusieurs niveaux d'écriture. Il y a des écritures familières et un niveau plus...
C'est vrai, c'est vrai. Nous allons donc ouvrir ce coup de grain qui est paru en 2023, comme vous le disiez, et c'est paru cette fois aux éditions Osas, que je connais un petit peu puisque j'ai déjà eu d'autres auteurs et j'ai reçu aussi les éditeurs d'anciennes émissions. C'est paru dans la collection Tessel, un recueil comme celui-ci. Est-ce que vous l'avez fait petit à petit ? Est-ce que vous êtes allé chercher d'anciens écrits ? Ou est-ce que vous l'avez décidé dans son entier ?
Non, non, ça a été petit à petit, parce qu'au départ, ça n'était, je n'avais pas prévu de le publier. Il y a une première nouvelle, Le bonnet d'âne d'Agnès B. Celle-là, elle est très ancienne, hein, elle date de, je l'ai écrite peut-être il y a 30 ans.
Oui.
C'est très ancien.
Pourtant, on la dirait d'aujourd'hui.
Et oui, oui. Parce que je l'ai un peu réadapté avec, avec l'actualité. Ensuite, les autres, ça a été à partir, quand j'ai cherché à me faire publier, 2005, que je me suis attaquée au concours de nouvelles. La nouvelle Coup de grain, ça a été une nouvelle de circonstance. Hein. Je l'ai écrit pour la circonstance. Et ensuite, j'ai continué parce qu'ensuite, j'ai été publiée. J'ai abandonné l'idée de concourir à des concours de nouvelles. Mais chaque fois que j'avais une émotion, que quelque chose me semblait... que j'éprouvais la nécessité de l'écrire, je l'ai écrit. Et ensuite, ça a été une rencontre avec les éditions Osas. À l'occasion, mon roman, ma saga de science-fiction, Les légendes ourdiniennes, ont été primés au concours des arts littéraires de Saint-Aurens. Et là, il y avait une représentante des éditions Osas et qui m'a dit, elle m'a dit, voyez, nous, tout ce qu'on édite, que ce soit des nouvelles ou des romans, on le lit. On le lit à voix haute de bout en bout. Bon, autrement dit, comme Balzac, je lui dis, vous faites comme moi, vous le passez au gueuloir. Et c'est, ça, ça m'a séduit et je leur ai envoyé coup de grain.
D'accord.
Qu'ils ont accepté.
Ben, ils ont bien fait parce que c'était un excellent recueil et je recommande aux auditeurs de se le procurer. On peut le commander directement aux éditions Osas ou bien on peut aussi le commander chez le libraire.
Oui, en librairie.
Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est l'actualité ou peut-être les gens ou aussi des situations qui peuvent vous inspirer et comment vous mettez l'humour dans certaines situations parce qu'on ne peut pas le mettre partout peut-être.
Par exemple, la nouvelle qui s'appelle « Alexander the Great ». Elle est née d'une émotion, oui. Un fait divers que j'ai entendu, alors il y a très longtemps, à la radio, un accident d'avion à Washington, dans le Potomac. Oh. Un avion s'est crashé dans le Potomac, enfin, qui est le fleuve oui. qui passe à Washington.
On en
et
parlera
là,
après.
Vous voulez en parler plus tard.
Oui. Mais on parlera de chaque,
oui, de chaque nouvelle.
Vous dites que vous êtes inspiré donc, par certains faits divers, finalement.
Certains faits divers, c'est des faits divers qui m'ont particulièrement marqué,
oui.
ou bien ma propre expérience.
D'accord. Et par exemple, quand vous êtes dans la rue ou que vous êtes dans un magasin, si vous entendez nos conversations, ça peut vous donner un sujet ou pas ?
Oui, certainement, oui. Oui, parce qu'on en reparlera, mais à certains dialogues, c'est...
Oui.
Qui ont été vécus, entendus.
Oui. C'est un livre magnifique, un livre très rigolo. Je tiens encore à répéter ce mot parce qu'il est tellement écrit dans le langage simple qu'il en est très rigolo, parce que là, tout le monde peut s'identifier, et ça, j'aime. On va ouvrir ce recueil, on va commencer avec commerce, et là, c'est un sujet qui est d'actualité encore, et qui le sera, je crois, éternellement, puisqu'il a commencé avec l'humanité, et il finira avec, je le suppose, la prostitution. Alors, c'est parti d'une conversation de foot, et on tombe dans la prostitution. Oui. C'est encore de l'humour, et là, avec l'humour, on peut tout dire par contre.
C'est le télescopage de deux événements. Mon équipier Jean-Paul, dans le cyclotourisme, il m'avait raconté une histoire vraie. Ses parents étaient grossistes aux Halles de Paris, rue Saint-Denis, et sa mère, elle le promenait. Elle avait l'habitude, elle le mettait dans le landau et elle lui faisait faire le tour du moulon. La rue Saint-Denis, à l'époque, il y avait les prostituées. Et une fois, il y avait une descente de police et une prostituée lui a demandé de pouvoir lui emprunter le landau pour passer inaperçue. Elle lui a prêté le landau et elle a disparu au coin de la rue. Et là, elle s'est posé la question, est-ce qu'elle allait revoir son fils ? C'est rigolo.
Oui.
Oui, mais ça donne lieu à des réflexions qui sont moins rigolote sur la prostitution et l'exploitation.
Oui.
Et d'autre part, le télescopage, ça a été à l'occasion, alors ça c'est du vécu, 100%, à la discussion du restaurant administratif, à l'occasion de la coupe de football en Allemagne, la coupe du monde de football, où les Allemands avaient installé des lupanars un peu partout. Et là, il y avait des fonctionnaires qui racontaient. Des femmes. Mais c'est un métier libéral comme un autre.
Et oui, c'est ça. En fait, c'est le mariage qui m'a séduite, parce qu'il y avait d'un côté le foot, et de l'autre côté, cette situation oui. rocambolesque, et vous les avez mariés, mais parfaitement. Et ça peut se prêter à d'autres situations également. C'est une vérité aussi, peut-être, que vous avez voulu dire, ou en tout cas étaler.
Une hypocrisie. J'ai voulu dénoncer, je pense. Alors bon, parce que quand on écrit,
oui.
on ne dit pas... moi, je n'écris pas pour délivrer des messages.
Tout à fait.
Mais ce qui m'a marqué, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie de est-ce qu'elle voudrait ça ? Est-ce qu'elle voudrait ça pour leur fille ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pourtant, oui, vous n'écrivez pas pour dénoncer, mais quelque part aussi vous interpeller.
Et oui, puisque ça s'agit d'une émotion, donc
oui.
je ne peux pas m'abstraire
tout à
de
fait,
ce que je pense.
Et puis dans cette situation, il y a les degrés du vin qui aident aussi au déliement de la langue. C'est encore de l'humour, encore une fois. Et cette chute, est-ce qu'elle a été inattendue ou est-ce que vous saviez déjà comment ça allait finir ?
C'est en l'écrivant.
Dans Coup de grain, on est plus sur les dommage du chômage, là.
Oui.
Et vous faites distendre vos personnages. Pourquoi cet étirement dans les personnages comme ça, cette distance qu'il y a?
Ces nouvelles, elles sont relativement longues pour pouvoir se plonger dans la psychologie des personnages.
C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a cette distance-là. Cette vendeuse, Josiane, j'ai pas trop compris. Si, j'ai compris. Mais Josiane, elle aidait à vivre, cette vendeuse, puisque dans ce village, il n'y avait plus rien.
Oui.
Et pourtant, cette vendeuse, elle se venge finalement. Oui. Alors, est-ce que c'était dû à la situation du chômage qui était à près de 70, peut-être plus, pourcent dans le village? Ou est-ce que c'était finalement les moyens qui l'ont rendu si aigre?
Ah, là, c'est le secret du personnage. Je pense que c'est la psychologie des personnages. Et dans toutes les circonstances, il peut y avoir des traîtres et des personnes qui se vengent.
Oui.
Qui sont jalouses. Parce que ce coup de grain, c'est pareil, ça. L'étincelle, c'est d'une émotion. Alors, c'est du vu, bon, à la télé.
Oui.
Se produit un peu partout.
Oui,
hein.
Dans les
une petite ville de la Loire qui est accablée par le chômage massif suite à la fermeture des industries traditionnelles. Et une ouvrière, alors, entrée la cellule de reclassement qui leur demandait des écrits. On demande des écrits à des ouvrières qui n'ont jamais fait ça. Et il y avait le cas de l'une de ces ouvrières qui avait ouvert une boutique de lingerie dans laquelle personne n'entrait à part ses anciennes collègues au chômage.
Oui.
Voilà la naissance de cette nouvelle et qui tourne après autour d'une affaire criminelle.
Oui. Criminels.
Qui dérapent.
Tout à fait, tout à fait. Je sais que vous, les auteurs, vous avez l'habitude de me dire que le lecteur pense et fait vivre l'histoire selon ses goûts, selon ses idées. Est-ce qu'ici, on peut penser que Soutreille est le commanditaire du vol à l'arrache du portefeuille de son gendre ou pas?
Là, je ne l'ai absolument pas pensé, mais bon, livre à vous de prêter des mobiles et des intentions à son treil.
Je pense que quand même, quelque part, je sais que les auteurs sont un petit peu tarabiscotés. Vous pouvez quand même dire s'il y avait cette petite idée derrière votre stylo, pas vous.
Pas moi, parce que moi, j'étais plus dans le destin. Le destin, ça fait partie un peu de mon inspiration. Le destin, quelque chose que personne ne maîtrise et puis ça arrive.
Oui, d'accord. Donc là, c'est la société, en fait, et la famille qui vous a inspiré cette nouvelle.
Oui, c'est ça. Oui, alors c'est la situation, mettons, socio-économique.
Oui.
Ça, le sous-tendu.
On passe maintenant à Vue courte et patte d'eph. Comment cette idée d'accident vous est-elle venue? Parce que ça m'a fait rire, l'accident de cette petite fille.
Celle-là, Vue courte et patte d'eph, il y en a deux qui sont autobiographiques. Elle est absolument autobiographique. Je l'ai écrite d'ailleurs il y a très longtemps. Hein, j'étais, parce que je suis myope, comme une taupe. Ce qu'elle a enduré avec les lunettes, moi, je l'ai vécu.
D'accord.
Là, je ne l'ai pas imaginé.
D'accord.
Là, je l'ai raconté. Ça, c'est...
Mais l'accident... Cette grand-mère qui s'assoit sur la tête de sa petite fille. C'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. Moi, ma grand-mère paternelle marchait avec une canne blanche.
D'accord.
Et elle ne m'avait pas vue. Alors, je marchais de 16. J'avais 7 mois. Hein, j'étais toute bébé. Je marchais de 16 en chaise. Et elle ne m'avait pas vue. Elle s'est assise sur ma tête. Mais à l'époque, maintenant, on alerterait le SAMU. Bon, à l'époque, ma mère s'est contentée de désinfecter la plaie.
D'accord. Ah ben, voyez, ça, je pensais
oui,
que c'était vraiment fabriqué de toutes
pièces. Ah non,
pièces.
Ça, c'est du vécu.
cette fille, vous l'avez faite un peu goguenarde, peut-être un peu plus débonnaire à la chute, parce qu'on voit la petite fille qui souffre et qui vit l'adolescente, et puis cette chute qui arrive là où elle est resplendissante. Très attachante, finalement. C'est voulu ou c'est aussi un peu le vécu que vous avez?
Ah non, c'est le vécu. Là, c'est le vécu.
D'accord.
Ça, c'est le vécu, et puis le vécu de beaucoup de myopes. À l'époque.
Oui, à l'époque.
Parce que maintenant, c'est un accessoire de myope. Et nos enfants, nos jeunes sont... Il y a beaucoup de... Enfin, ils portent tous des lunettes.
Oui.
Hein, à l'époque, c'était rare.
Oui, je comprends. La différence ici, par contre, vous l'avez souligné. Vous avez aussi souligné la mise à l'écart, les idées toutes faites des adultes, des gens et des enfants. C'est sur cette différence que vous avez voulu vous attarder. Est-ce qu'elle est, elle est toujours un peu de mise, quelque part, cette différence quand même, même si ce n'est plus...
Ah non, ce n'est plus la même chose, parce que les techniques ont évolué, parce qu'à l'époque, les verres n'avaient pas... ils n'étaient pas traités. Les grands myopes, maintenant, on les opère. Oui. On ne les affuble plus de cul de bouteille. Ça, c'est le témoignage de beaucoup de myopes, quand ils ont commencé à porter des lentilles de contact.
Oui.
Et qui se sont regardés dans la glace.
Dans Boomerang, est-ce que c'est le cœur qui vous tient à cœur, justement?
Dans Boomerang, ça m'a été inspiré. Ça, c'est pareil, c'est ma grand-mère m'avait raconté une histoire. Quand elle était à Oran, elle était à une terrasse de café, et un Américain, un militaire américain, en passant, il lui a renversé son verre sur... Elle portait une jupe, sur sa jupe. Et alors, il était embêté, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Il avait sur lui un billet de loterie, et il lui a dit, pour vous dédommager, prenez ce billet de loterie. Bon, le billet était gagnant. Enfin, pas le gros lot, hein,
ouais,
pas le gros lot.
Oui.
Parce qu'après, la nouvelle, je l'ai...
arrangée.
C'est romancé, parce que
oui,
quand même, je suis romancière. Donc, là, on chassait le naturel, il revient au galop.
Tout à fait. Et ça aussi, ça m'a fait trop rire, parce que ce pauvre garçon, il sort de prison, il n'a rien du tout. Et le voilà avec ce billet que sa sœur lui avait offert finalement,
oui,
parce que sa sœur n'avait pas non plus les moyens. Et encore une fois, c'est avec humour que vous avez sorti cette femme de la boue, parce qu'elle était vraiment traînée dans la boue. Est-ce que là aussi, c'est la chance, même si ce mot est employé à toutes les sauces, est-ce que vous voulez aussi dire que la chance peut tourner, que la chance existe,
oui,
et qu'on a droit à la chance?
Oui, oui, la chance existe. Je suis persuadée qu'elle existe et qu'elle se répartit entre tout le monde.
Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un bienveillant qui coordonne les choses, ou il vous fallait cette part mystique peut-être aussi?
Oui, un bienveillant, là je l'ignore. Le destin, alors, c'est les personnages sont très mal, comme on dit, vulgairement, ils sont mal barrés dans la vie, et ensuite tout s'éclaire.
Est-ce qu'il faut aussi peut-être parfois un peu d'audace pour faire tourner la manivelle, justement,
ah oui,
et tourner la chance?
Et oui, 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 certainement, oui.
Est-ce que peut-être aussi c'est votre ressenti dans votre vie? Vous disiez que dans la nouvelle précédente, vous avez eu ce malheur d'avoir été accidentée toute bébé et cette myopie, est-ce qu'à vous aussi, cette chance a tourné?
Oui, oui, oui. Et puis, quand on est auteur, il faut se dire que on ne peut pas se dire « je n'ai pas de chance ». Il faut la pousser.
Si ça existe, croyez-vous, peut-être pas, qu'à l'époque où vous situez les histoires, ouais, c'était normal? Ces histoires-là. À chaque fois, vous situez l'histoire, et puis, est-ce que c'est normal que ça arrive? Est-ce que... Comment dire? Est-ce que... Oui, bon, par exemple, la petite fille,
oui,
la dame avec le landau...
Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Bon, à l'époque, alors ça, c'est... Les Halles, à l'époque, elles,
oui,
étaient ce qu'elles étaient. Là, bon, c'est arrivé. Bon, tout était... Les étoiles étaient alignées pour que ça arrive.
Ben, nous allons faire une petite pause musicale pour pouvoir reprendre notre souffle. Vous avez choisi Barbara, pourquoi?
Parce que c'est une chanson dans laquelle Barbara raconte une histoire. Moi, je fais, en tant que novelliste, je fais la même chose. En quelques pages, on raconte une histoire.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme comme celui-là. Il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous. 25 rue de la Grange au Loup, mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses, mon père, il pleut sur Nantes, et je me souviens.
Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Claudine Canda, auteure toulousaine, passionnée d'écriture. Elle nous présente aujourd'hui « Coup de grain », c'est paru en 2023 aux éditions Osas, dans la collection Tessel. Claudine, trêve armée dans la lutte des classes, ne serait-ce pas plutôt une nouvelle qui résume tout dans la société, le cœur, la raison, l'amour, la colère, la tromperie. Et là, c'est une histoire peut-être tirée du vrai. La lutte des classes, en fait, c'est un très vaste sujet. Est-ce que c'était important pour vous de l'écrire ?
Pour moi, c'était important. Là aussi, cette nouvelle a une histoire.
Oui.
Parce que là, bon, il faut revenir quelques années en arrière.
Tout à fait.
Diabolo Pacte est publié et Diabolo Pacte n'a plus d'éditeur. Donc, les droits sont libres. Et là, je l'ai bâti, cette nouvelle, à partir d'un épisode de Diabolo Pacte. Quand Josette Goujard, se souvient, raconte ses souvenirs à la plage où elle se fait berner par un jeune homme de bonne famille qui l'exploite.
Oui.
Et là, je l'ai écrit autrement. Ensuite, ce passage enfin, de la faillite d'entreprise, je l'ai, bon, c'était ma vie professionnelle aussi parce que j'ai été pendant des années contrôleur du travail.
Pensez-vous que ça puisse exister encore, cette lutte des classes, encore aujourd'hui ?
Oh, mais je pense qu'elle existe et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter.
Oui. Kléber, est-ce qu'il était nié au point de ne pas se rendre compte que son ami était un faux ami ? Et on n'en dira pas trop non plus.
Non, je pense que oui. Là, j'ai décrit alors Kléber. Là aussi, c'est toute une histoire. Kléber, pourquoi ce personnage apparaît, Kléber, ce prénom ? Mes parents, quand je suis née, ils étaient persuadés qu'ils auraient un garçon. Et mon prénom, le prénom qui m'était destiné, c'était Kléber. Et ma mère a dit, heureusement que j'ai eu une fille. Mais et c'est... qu'ils n'ont pas eu la latitude de choisir un prénom. Parce que là, ils étaient...
Franchement.
Oui, non, aussi. Donc, ce Kléber, voilà, j'ai recyclé ce prénom.
D'accord. Eh bien, en tout cas, moi aussi, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais où est-ce qu'elle a été chercher ce nom ? Est-ce que ça a été facile de cadrer justement cette histoire, puisqu'on y reconnaît l'époque, en tout cas, puisqu'il y a plein de détails. Et est-ce que c'est aussi pour la crédibilité de l'histoire que vous situez comme ça des points de l'histoire ?
Oui, oui. Oui, c'est pour les histoires sincères dans une réalité qui est sociale, qui est économique. Là, on est dans le temps présent avec la faillite des commerces traditionnels qui sont concurrencés par les pays à bas coût. Et là, on régresse. Les récits régressent autour de mai 68.
Et oui, en effet. On a bien reconnu, surtout quand le papa parle... C'est vraiment bien fait. On va passer à la nouvelle suivante qui s'appelle Triste Trieste. Je pense qu'on peut encore rire de tout. Et ici, ça prend un tout autre sens. D'où vous vient ce franc-parler que vous avez, en tout cas dans l'écriture ?
Là, je ne le maîtrise pas. Je pense que c'est ma manière de m'exprimer.
D'accord. Dans toutes les nouvelles que vous avez écrites et jusqu'à celle-ci qu'on est en train de commencer à décortiquer, c'est le pour, le contre, le noir, le clair. Je trouve que c'est un atout littéraire important que vous mettez en avant aussi. C'est très bien posé chaque fois. Et je vous cite. « Elle, c'était la réussite, alors que moi, je me traînais au bac. L'une à la banque, l'autre globe-trotteur. » C'est cette façon aussi naturelle ou c'est parce que c'était vraiment comme ça ?
Oh, c'est-à-dire, là, c'est de l'imagination. Oui. Là, je l'imaginais, hein, ce personnage. Alors, Trieste, point de départ. Moi, j'ai été Trieste. On est parti de Trieste pour découvrir les Balkans à vélo, avec des sacoches en toute autonomie. Et là, c'est de là. Et le jeune homme qui tombe un pull dans la rue, là aussi, j'ai assisté à la scène. Et c'est comme ça que j'ai imaginé cette histoire, qui tourne aussi autour de la littérature.
Oui, en effet, oui.
Et des sentiments.
Oui, 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 oui. Vous écrivez un petit peu plus loin, hein ? Peut-être en même temps, c'est ce que vous venez presque de me donner la réponse. L'auteur s'habille, se déshabille pour se parer, pour masquer les séismes de la vie. J'ai trouvé ça juste magnifique à la lecture. Vous remarquez ça tous les jours autour de vous ? Est-ce que vous prenez des notes dans ce cas ?
Quand j'écris, oui, je prends des notes. Quand il me vient une idée, je les note dans un cahier.
D'accord. Et par exemple, vous allez au supermarché, vous voyez une situation, est-ce que vous la notez, cette situation, et est-ce qu'après vous allez les rechercher ou pas ?
Je ne sais pas si je note les situations, je note les idées. Les idées et le déroulement des histoires.
Oui, parce que ce qui m'a donné l'idée de cette question, c'est justement le fait de ramasser ce pull bleu. J'ai dit, mais peut-être elle a vu ça quelque part.
Oui, c'est une émotion. Alors, ça fait partie d'une émotion. Oui. Et là, il y a toute une histoire qui se développe.
C'est vrai.
On a des cercles.
Encore une fois, vous parlez de la différence. Et ici, c'est plus la différence de l'âge avec toujours de l'humour. Ça m'a fait rire encore une fois. Un menu de cougar, feu d'artifice, l'âge. La fougue, la jeunesse, le passage du temps, mis en valeur ou en dévaleur ici ?
Oh là, c'est... Bon, c'est... le comique, enfin, ce qui m'a intéressé de montrer, c'est que cet écrivain qui va sur la soixantaine, qui est fraîchement veuve et qui, tout d'un coup, renaît de les sentiments, renaissent de leur cendre. Et elle a une aura d'artiste, comme l'avait Edith Piaf.
Qu'est-ce qui vous a donné cette capacité de voir au-delà des yeux? C'est ce qui ressort dans ce livre. On dirait que quand vous voyez quelque chose, hop, il y a toujours une histoire derrière qui arrive et dont vous ne voyez pas qu'avec les yeux, vous voyez au-delà des yeux, en fait. Est-ce que c'est aussi ces peintures que vous avez, dont vous avez été bercée petite?
Oui, sûrement, parce que mon père peignait dans un genre particulier, qui était le réalisme fantastique. Lui, c'était l'imagination au pouvoir. Et quand j'écrivais, je faisais des rédactions quand j'étais petite, il m'a donné qu'un seul conseil, il me disait « il faut mentir ». C'est-à-dire, pour lui, il ne fallait pas raconter ce qu'on vivait, il fallait imaginer.
Oui.
Puis là, moi, je pense que j'ai dépassé ses espérances.
Ah, tout à fait, je pense aussi. À la page 121, on passe à la nouvelle Alexander the Great. Je ne sais pas si je le dis correctement. Et là aussi, c'est humour et tragédie.
Oui.
Ce qui m'a fait sourire, c'est « j'ai peur de me réveiller mort ». Mais c'est rigolo. Il n'y a que vous pour trouver... Ou alors peut-être... Est-ce que vous êtes un enfant adulte? Parce que ça serait une pure réflexion d'enfant, ça.
Et oui, mais les réflexions d'enfant touchent quand même des réalités dont les adultes sont séparés.
Oui, mais vous les avez gardées?
Oui. Je pense, oui.
Parce que pour écrire ça, il faut être un enfant adulte. La maîtrise de soi, c'est difficile de passer outre. Est-ce encore une différence qui est mise en avant, là, dans cette nouvelle?
Alors, dans cette nouvelle, c'est toujours l'émotion. L'émotion, c'est l'admiration que j'ai eue pour un héros anonyme. Je l'ai entendu à la radio.
Oui.
Accident d'avion au-dessus du Potomac, le fleuve qui passe à Washington, l'avion se crache. Et là, les passagers se retrouvent dans l'eau. Et là, il y a un hélicoptère qui intervient et qui litreuille les rescapés. Et là, il y a un homme qui cède chaque fois sa place dans l'hélicoptère. Et il finit noyé. Et je voulais un peu ressusciter ce héros anonyme, lui exprimer mon admiration. Mais il est totalement imaginaire parce que je ne le connais pas.
C'est bien de l'avoir ressuscité quelque part, et de l'avoir sorti de l'eau. C'est ça qui est bien aussi. Basé sur un fait réel, est-ce que cette nouvelle a été difficile à écrire?
Oh, c'est-à-dire que je l'ai reprise en plusieurs fois, parce que là, bon, puisque la règle, c'est que le lecteur doit avoir envie de poursuivre la lecture. Il faut le réveiller de temps en temps et ensuite se plonger dans la psychologie des personnages.
Avant la peur du néant, est-ce que la chute de cette histoire est aussi la peur du néant ou pas?
Pour moi, la fin de cette histoire est quand même assez optimiste parce que les personnages, Alexander, bon, il meurt dans l'accident d'avion, mais Alexander, enfin, sans dévoiler l'histoire, il est psychiatre il pousse cet éditeur, hein, ce Jay Will, là, qui est américain parce que ça se passe aux États-Unis, trouver la force de surmonter ses peurs. Il s'extrait du culte du héros pour pouvoir vivre sa propre vie.
Oui. On arrive tout doucement au bonnet d'âne d'Agnès B. Ici, le vivre ensemble prend tout son sens, à mon humble avis. Est-ce que le harcèlement silencieux que vous mettez en avant là ou pas?
Là, c'est autobiographique, d'accord. Absolument autobiographique. L'histoire de la gifle par le professeur, j'y ai assisté. Et puis, l'histoire du harcèlement de la petite Agnès B., je l'ai vécu en année de cours élémentaire, deuxième année, une année à résister au harcèlement de l'institutrice. Là, c'est tout tel que je l'ai vécu. Là, j'ai fait une description. Et ensuite, j'ai voulu le relier. Oui, parce que quand même, ça, c'est oui. autobiographique. Ça m'a donné de la force. De la force ensuite de ne pas avoir d'avoir résisté, de ne pas avoir cédé. Ça m'a donné la force ensuite de ne pas céder à la pression quand elle venait d'ailleurs. Et j'ai donné alors là aussi le lien avec le harcèlement professionnel.
Tout à fait, oui. Et ça allait être ma prochaine question. Donc, c'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre, enfant contre adulte. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à déclarer ce harcèlement ?
Cette histoire, j'ai eu envie de la... Alors, c'est la seule histoire, ça, c'est autobiographique, oui. parce que dans mes romans, je ne parle jamais de moi. C'est toujours de l'imagination, des personnages. Là, j'ai eu envie d'écrire de raconter cette expérience.
Oui. Et ça vous a apporté plus de force, peut-être ?
Oui. Ah oui. D'accord. Ah oui. D'avoir réussi à résister, alors qu'une élève est arrivée en cours d'année, elle est arrivée avec des enfin, elle était très bonne élève, elle est arrivée avec des cahiers magnifiques. L'institutrice de l'époque l'a cassée et elle a cédé. Hein,
Est-ce que finalement, Madame P a renforcé Agnès B pour sa vie future ?
Oui.
Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce renforcement ?
Eh bien, c'est d'être reconnue à un certain moment quand elle m'a dit « on fait la paix ». Et là, j'ai pris conscience qu'on demandait la paix, non pas avec quelqu'un qu'on écrase, pas avec une victime, mais avec un adversaire. À ce moment-là, là, j'ai senti quelque chose. Mais enfin, bon, ça a été très dur. Hein. Je peux vous dire, le dimanche soir, c'était affreux. Mais ce qui m'a avec l'actualité, puisque là, on parle beaucoup de harcèlement. Alors là, c'est le harcèlement maintenant entre élèves. C'est qu'à l'époque, alors j'étais très mal, mais il ne m'est jamais venu à l'idée une seconde de me suicider. Peut-être qu'à l'époque, on ne pensait pas...
C'était une autre
époque.
Oui. Vous pensiez à la rage de vous battre, justement, au sens figuré, pour justement prendre le dessus aussi.
Ben, je ne sais pas si c'était la rage, mais c'était de ne pas pouvoir dire oui, je suis orgueilleuse, oui, je ne suis pas intéressante, parce que c'était ça, hein, ce que je me prenais en pleine figure.
Eh bien, j'espère qu'elle a lu quelques-uns de vos livres.
Peut-être depuis l'au-delà, parce que je pense qu'elle ne doit plus être de ce monde.
L'enfant de la balle, comment survivre ? Parce que ça, en fait aussi, elle arrive bien juste après votre histoire, et encore une fois, c'est une histoire d'enfant. Comment survivre quand on connaît d'abord l'amour, la douceur, et puis qu'on plonge dans le cauchemar ? Comment on peut survivre à ça ? Parce que cet enfant, c'est ça ?
Oui, cet enfant,
Il est aimé chez lui, finalement.
Oui, et puis il se retrouve, alors c'est un enchaînement de circonstances, il se retrouve enchaîné. Une histoire, il ne veut pas rester dans le cirque, mais il est obligé d'y rester. Mais finalement, il s'en sort.
Oui, heureusement. Est-ce que l'humiliation, l'horreur de voir l'insupportable de la maltraitance silencieuse d'un enfant, est-ce que ça a été difficile à écrire ?
Difficile, je l'ai écrit. Enfin, si je l'ai écrit, c'est que j'avais besoin de l'écrire. Cette histoire de cirque qui me tient à cœur, parce que ma grand-mère avait refait sa vie avec un trapéziste du cirque Pender. Et là, c'est véridique. Alors lui, un numéro de trapéziste célèbre avec son frère. Et un jour, son frère ne l'a pas récupéré, enfin ne l'a pas rattrapé. Il est tombé dans le filet. Il s'en est sorti avec un bras cassé. Mais dès lors, il n'a plus pu remonter sur un trapèze.
D'accord.
C'est de ça.
Oui, c'est comme ça que vous est venue l'histoire.
Oui.
Et en même temps, moi, je me suis dit, mais elle a mis cette histoire juste après Agnès B. Et est-ce que peut-être aussi ce n'est pas un reste dans la tête qui est venu s'insérer là-dedans ?
Je ne sais pas. Je les vois comme deux histoires, deux émotions différentes, mais elles font partie de ma propre histoire.
Cet enfant, il a vu l'insurmontable.
Oui, parce que c'est quand même assez dur. Il y a quand même un accident mortel, dissimulation de cadavre, enfin, parce qu'il prend la place, prend la place d'un mort, hein, d'un petit mort dans
Et après, quand il réussit à s'échapper, quand il réussit à renouer avec sa famille, est-ce que ça aussi c'était une fin de boucle ?
Exactement, une fin de boucle optimiste.
Vous l'avez connu, ce garçon ?
Non, je l'imaginais. Oui, je dois l'avoir connu dans mon inconscient. Mais...
Dans La carotte et le pilon, là aussi, ça fait trop rire parce que, en plus, je déteste les carottes. Alors, ça m'a fait trop rire. Est-ce que c'est la vie qui tient à un film ? Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre en
avant ? Alors, ce que j'ai mis, c'est jailli d'une émotion à la cantine. Les carottes dans le plat. Les carottes n'étaient jamais cuites. Je disais, le seul endroit où les carottes ne sont pas cuites, c'est la cantine. Autour de ça, j'ai imaginé l'histoire. L'histoire, alors là aussi, je ne sais pas si c'est autobiographique ou non, mais ça parlera à tous les auteurs.
À tout à fait.
Qui galèrent.
Ah, tout à fait. Et encore une fois, c'est comme je le disais au début, c'est rigolo.
C'est rigolo, il faut faire rire avec quelque chose qui n'est pas gai, parce que là, la réflexion, je l'ai écrite, c'est paru en 2023, un coup de grain. Mais là, j'étais en dédicace dans un Intermarché, enfin une dédicace qui a très 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 bien marché. Et puis, les gens se confiaient un peu, on n'est pas dans une librairie, on n'est pas, c'est un autre lieu. Et... là, il y a une dame qui disait « J'achète beaucoup de livres, mais c'est cher. » Alors, elle me dit « Je vais dans les vide-greniers. » Enfin, c'est exactement, et je me suis dit, justement, je lui dis « Justement, dans...
» C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui dit vouloir mourir avec autant d'humour que ce que vous lui avez prêté, est-ce qu'il veut vraiment mourir ou pas ?
Mais c'est-à-dire, il veut surtout échapper à sa misérable vie.
Oui.
Je crois que beaucoup de personnes qui veulent mourir, qui...
Oui, mais est-ce qu'il y a autant d'humour quand même ?
Non.
Voilà, c'est ça.
Non, mais après...
Donc lui ne voulait vraiment pas mourir, quoi.
Oui.
Ah. Vous avez fait le fou rire salvateur, finalement, c'est ça qui le sauve.
Oui, c'est ça, oui.
Et là, vous lui avez donné ce fou rire en pleine rue. Vous avez déjà vécu cette situation ?
Ah ben oui, non, mais moi quand j'ai pas le moral, je me plonge dans la foire au cancre, dans les perles du bac, et encore les perles du bac, des fois je trouve que c'est tellement déplorable que ça ne me fait pas rire. Mais alors là, l'autruchon gris, là c'est...
Ah oui, ça
c'est
vrai.
Pour moi, c'est le summum.
En effet, c'est vrai. Cet homme est tombé dans le chômage.
Ah oui, il est tombé très bas, très bas. Oui. Il n'a plus de logement, il ne peut plus payer le loyer, il perd son logement, il perd son boulot, enfin, il perd tout. Et puis là, qu'est-ce qu'il rencontre ? La personne qui va le tirer de sa misère et lui faire accomplir son rêve.
Avec un autruchon gris.
L'autruchon gris qui le fait rire. L'autruchon gris, c'est l'Autriche-Hongrie. Et quand j'étais gamine, quand j'avais lu ça, je n'ai pas compris l'Autriche-Hongrie. Bon, à cet âge-là, ça me passait au-dessus de la tête. Et alors là, l'autruchon gris, c'est...
Mais je dis, mais
on peut avoir dans les zoos.
Il n'y a que des auteurs gris. Pour arriver à trouver des trucs comme ça. Que vous ont dit les lecteurs que vous avez reçus en dédicace ? Vous en avez parlé un petit peu ?
Ah oui, ça, j'ai de très bons retours de lecture de ce recueil de nouvelles.
Je ne suis pas du tout étonnée. Parce que franchement, c'est quelque chose qui est... C'est reposant, quelque part, je dirais. Et on peut les lire plusieurs fois, c'est pas grave. Moi, je les ai lus deux fois, pour arriver à cerner, à aller derrière les virgules. Ce coup de grain, c'est une folie ou pas ? Parce que c'est une excellente idée de les avoir partagés avec les lecteurs.
En coup de grain, c'est le titre, enfin, c'est la nouvelle, parce qu'il faut bien trouver un titre au recueil. En coup de grain, j'ai hésité avec Un enfant de la balle, mais le titre, c'est un roman de John Irving, Un enfant de la balle, qui se passe dans un cirque. Puis les éditions OSA, ça leur plaisait, coup de grain, mon idée première. Et j'y suis restée dessus. Coup de grain, c'est un coup de folie.
Oui.
C'est quelque chose qui change le destin.
Oui. Et en même temps, chaque nouvelle a son coup de grain.
Oui, chaque nouvelle, il y a quelque chose. Oui. Un petit grain de sable qui fait que les rouages, l'engrenage s'enroue, ou bien que quelque chose, un coup de vent qui fait tourner les ailes du destin. En fait.
Oui.
Et dans le bon sens.
Oui, tout à fait. Et c'est bien choisi comme titre. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Par contre, j'ai un petit peu hésité. Et nous en avons parlé quand nous avons préparé un petit peu. Il y a un tableau sur votre livre. Et j'ai cru que c'était vous qui avez peint ce coup de grain, parce qu'on voit bien qu'il y a un coup de grain aussi sur cette mer qui est un petit peu houleuse, mais pas plus que ça, elle est quand même assez tranquille. Est-ce que c'est le tableau qui vous a inspiré ou est-ce que c'est le titre qui a inspiré le tableau ?
Non, c'est le titre qui a inspiré le tableau parce que les éditions OSAS, alors leur politique, c'est de demander aux auteurs d'illustrer la première de couverture. Moi, je me disais, mais l'image, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, tout d'un coup, avec ce titre « Coup de grain », j'ai regardé dans les tableaux de mon père. Et puis voilà, j'ai opté pour cette marine.
Oui. Et en même temps, c'est bien pour votre papa.
Oui, c'est bien. C'est une reconnaissance.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ben, bravo du choix. Il est très bien. Le livre lui-même parle. Ce tableau ressort bien de cette couverture blanche et de ce titre. Donc, bravo. C'est vraiment bien pensé et bien fait. Je recommande encore une fois cette lecture à nos auditeurs. Nous avons fait le tour de ces 10 nouvelles, Claudine. Merci beaucoup de m'avoir confié cette lecture rigolote encore une fois. J'avoue que depuis, je vois les coups de grain dans certaines rencontres, voyez-vous, parce que moi je côtoie beaucoup de gens et c'est vrai qu'il y a des fois je me dis « Oh, mais Claudine serait là !» Je me plais à imaginer votre réaction dans une situation pareille. Est-ce que l'humour vient tout seul ?
Je pense que oui, c'est une position un peu dans la vie, un peu pour survivre, de tourner les choses en dérision. Et de faire rire, parce que c'est difficile de faire rire. Je pense que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer.
Tout à fait, ça c'est bien dit. Un livre encore que je recommande donc à nos auditeurs, qu'on peut commander chez son libraire préféré ou bien directement aux éditions OSAS ou aller dans les points de
ou alors, voilà, je voulais dire sur mon blog, Claudine Canda Romancière, c'est sur Blogueur. Vous pouvez suivre mon actualité et aussi des articles, lire des articles autour de la littérature et autour de la vie.
D'accord. Comment est-ce que vous étiez à la 10e nouvelle quand vous avez mis ce point final à ce coup de grain ?
C'est pas comme un roman où on met un point final. Là, je ne sais pas. Je les avais finies, je les avais faites depuis un certain temps. Et puis, c'est la rencontre avec une représentante, une personne des éditions OSAS. Je me suis dit, je vais leur adresser... Je leur ai demandé si elles publiaient de la poésie. Elles m'ont dit non, c'est pas du tout, on ne le fait pas parce qu'on ne connaît pas assez. Les nouvelles, oui. Donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas publier ce recueil ?
Oui. Et le livre lui-même, quand il a été bouclé, quand vous avez fini votre manuscrit, que vous l'avez envoyé, comment vous étiez à l'intérieur de vous ?
Oh, on est toujours un peu anxieux parce qu'on ne sait pas quelle va être la réponse de l'éditeur.
Qu'est-ce qui vous repose le plus, l'écriture ou regarder les peintures ?
L'écriture me fait du bien parce que c'est un plaisir d'écrire.
Oui.
C'est un plaisir. Et la peinture, parce que je regarde les peintres qui font valoir leur travail et je trouve qu'il y a des choses magnifiques.
Écriture à la main ou à l'ordinateur, qu'est-ce que vous préférez ?
J'écris directement à l'ordinateur.
Oui. Toute bonne chose a une fin. Il va falloir qu'on se quitte, malheureusement, Claudine. Mais j'espère que vous reviendrez encore dans quelques temps à la radio. Vous nous avez choisi Nino Ferrer pour nous quitter. Je vous laisse le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, Nino Ferrer. Pourquoi ? Parce que, pareil, il raconte une histoire alors, sur une musique magnifique. Et le mot de la fin... Je voudrais remercier Gisèle de m'inviter et de parler avec tant d'intelligence et de chaleur de ce que j'écris.
Mais vous savez,
sans lecteur, nous ne sommes rien.
C'est ce que je ressens qui ressort dans mes questions parce que, alors est-ce que c'est une capacité ? Je n'en sais rien, mais je vais toujours chercher derrière les mots. Et c'est ça qui m'intéresse parce que laisser un auteur se dépatouiller dans des dires comme ça, comme ça m'est arrivé de voir un auteur se débrouiller tout seul, sans question, sans rien, c'est pas reconnaître son travail aussi.
Et surtout que nous, le livre, nous ne l'avons pas lu.
Et oui.
Nous l'avons écrit, mais nous ne l'avons pas lu, tandis que le lecteur, chaque lecteur le lit avec sa sensibilité et chaque fois, il lit un livre différent.
Alors surtout, Claudine, ne changez pas. Restez avec votre gouaille, avec votre humour, avec cette franchise des mots et ces mots si simples que tout le monde comprend. Ça, c'est vraiment quelque chose... On ne le rencontre pas tout le temps chez les auteurs.
Mais merci Gisèle, ça me touche beaucoup.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.